Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la sphingomyélinase acide ou ASMD. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Anaïs Brassier. Docteur Brassier, bonjour.
Bonjour.
Docteur Brassier, vous êtes pédiatre au sein du service des maladies métaboliques de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes clinicien au sein du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme de l'enfant et de l'adulte, de l'hôpital Necker également pour la filière G2M. Et vous êtes présidente du CETL, le comité d'évaluation des thérapeutiques des maladies lysosomales. Alors, docteur Brassier, nous abordons aujourd'hui l'aspect pédiatrique du déficit en sphingomyélinase acide. Quelles sont les spécificités de cette maladie rare chez l'enfant ?
Dans le déficit en sphingomyélinase acide, qu'on appellera ASMD pour la suite de la présentation, il y a effectivement quelques particularités pédiatriques. C'est une maladie donc lysosomale qui est rare, de transmission génétique et dont l'âge en général au diagnostic est en pédiatrie. Donc la maladie est le plus souvent de révélation pédiatrique, avec des formes qui peuvent être symptomatiques, comme chez l'adulte, et d'autres qui peuvent être de diagnostic plutôt conduit fortuit, c'est-à-dire sur la découverte un peu par hasard pour un autre motif lors d'une consultation en pédiatrie aux urgences, par exemple d'une grosse rate, et éventuellement d'autres symptômes cliniques qui vont orienter vers le diagnostic de déficit en ASMD. Par ailleurs, chez l'enfant, une des particularités et des spécificités également, c'est que on va, comme c'est une maladie génétique, faire ce qu'on appelle un conseil génétique. C'est une maladie de transmission autosomique récessive, avec les deux parents qui sont porteurs de la maladie mais non malades. Et donc, il va exister un risque de récurrence de la maladie dans la famille et éventuellement la recherche de la maladie dans la fratrie. Par ailleurs, une des spécificités pédiatriques dans le déficit en ASMD, c'est la forme très rare neurologique dite de type A, déficit en sphingomyélinase forme A. Et là, ce sont des enfants qui sont d'emblée très malades avec des symptômes neurologiques, avec une hypotonie, en général des difficultés alimentaires, également un gros foie et une grosse rate, et qui vont malheureusement évoluer rapidement avec une dégradation neurologique et un décès précoce dans les premières années de vie.
Et qu'en est-il des formes frontières chez ces jeunes patients ?
Donc, dans le déficit en ASMD, il y a effectivement différentes formes cliniques. L'ancienne classification disait ASMD de type A, de type B et de type AB. Alors, la forme de loin la plus fréquente qu'on trouve en âge pédiatrique et à l'âge adulte, c'est la forme dite de type B, qu'on appelle plutôt maintenant dans la nouvelle classification la forme viscérale chronique. Et il y a deux autres formes plus rares. La forme de type A dont on a parlé à la première question, qui est la forme rare neurologique, qui s'appelle forme neurovisérale infantile, avec des signes très précoces, comme je l'ai dit, et un décès précoce également. Et ces fameuses formes dites frontières ou intermédiaires, qui sont les formes avant qu'on appelait de type AB, qui sont des formes neurovisérales chroniques. Et là, ce sont des patients qui ont effectivement les mêmes symptômes en général que dans le type B, donc une hépatosplénomégalie, l'atteinte éventuellement pulmonaire, mais aussi des signes neurologiques, donc qui peuvent être des difficultés scolaires, une atteinte cognitive, une ataxie cérébelleuse ou d'autres signes neurologiques, mais qui peuvent être plus ou moins sévères et plus ou moins évolutifs. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de spectre phénotypique, puisqu'il y a effectivement entre les patients une assez grande hétérogénéité et que l'atteinte neurologique dans ces formes dites intermédiaires est assez variable.
Alors chez l'enfant, docteur Brassier, qu'en pensez à ce diagnostic ?
Donc le diagnostic d'ASMD chez l'enfant est le plus souvent fait par la découverte d'une grosse rate, donc d'une splénomégalie volumineuse. C'est vraiment le mode de présentation le plus typique dans cette maladie-là. Et chez les patients qui sont diagnostiqués, plus de 90% des patients se présentent avec vraiment une rate très volumineuse, ce qui fait que ce sont des enfants qu'on voit se présenter souvent avec un abdomen qui est volumineux. Et même les parents peuvent dire que ce sont des enfants qui ont toujours eu un gros ventre. Par ailleurs, ils peuvent avoir du fait de cette rate volumineuse, une pesanteur abdominale, voire des douleurs abdominales. Certains peuvent avoir même des difficultés alimentaires avec un estomac qui est un peu probablement petit et écrasé par la grosse rate. Donc c'est vraiment la grosse rate est vraiment le mode de présentation le plus typique chez l'enfant. Ensuite, on a d'autres signes qui peuvent être des signes qui sont comme chez l'adulte, une hépatomégalie, donc là un gros foie, mais en général plus modéré, avec une atteinte hépatique biologique. Et puis après, l'autre organe qui est fréquemment atteint, à peu près un quart à un tiers des patients, c'est l'atteinte pulmonaire, qui est une atteinte qui est en général progressive avec des enfants qui peuvent avoir une gêne respiratoire, une dyspnée à l'effort, qui peuvent être vite essoufflés. Et ça peut être progressif, soit au moment du diagnostic, soit au cours du suivi de l'enfant. Et là, on va faire effectivement des radios pulmonaires, des épreuves fonctionnelles respiratoires pour mettre ça en évidence. Les autres signes cliniques qui sont un peu plus spécifiques de l'enfant, ça va être la cassure staturopondérale, qui est présente chez presque tous les enfants qui sont diagnostiqués avec la SMD. Il y a également une grande fatigabilité qui est parfois méconnue, mais quand on interroge bien les familles et les enfants, ce sont des enfants qui ratent fréquemment l'école, qui peuvent avoir aussi des douleurs, comme je l'ai dit, soit abdominales, soit des douleurs articulaires ou des douleurs osseuses. Et donc, effectivement, cette fatigue qui peut être plus ou moins importante. Et d'autre part, chez l'enfant un peu plus grand, on peut avoir un retard pubertaire et également des complications osseuses avec une fragilité osseuse, une ostéopénie, voire un risque de fracture.
Et quel diagnostic différentiel écarté chez les jeunes patients ?
Donc, le diagnostic est quand même fait en général sur une volumineuse rate. Donc, ça va être effectivement vers des diagnostics différentiels de splénomégalie qu'on va se tourner. En général, il va y avoir bien sûr une numération formule sanguine où on regarde s'il y a une anémie, une thrombopénie, voire une leucopénie, mais qui n'est pas toujours présente chez les patients avec un déficit en ASMD. Et bien sûr, les premiers diagnostics d'élimination, ça va être des leucémies, des hémopathies. Après, il peut y avoir des causes infectieuses, virales, par exemple, comme les virus des hépatites ou du CMV ou de l'EBV. Éventuellement, des causes hépatiques aussi, on peut rechercher un cavernum porte. Il va y avoir d'autres causes de splénomégalie qui sont des causes plus rares auto-immunes. Et puis nous, plutôt en maladie métabolique, on va avoir d'autres maladies de surcharge lysosomale qui peuvent également être diagnostiquées à l'occasion d'une splénomégalie, et en particulier la maladie de Gaucher, qui va être vraiment le diagnostic différentiel, je dirais, du déficit en ASMD. Et d'ailleurs, en général, quand ces patients nous sont adressés en consultation, on recherche en même temps la maladie de Gaucher et le déficit en ASMD. Donc, dans la maladie de Gaucher, il va y avoir des signes un petit peu différents, mais il y a souvent effectivement cette grosse rate. En général, on n'a pas d'atteinte pulmonaire interstitielle comme dans la SMD. On peut avoir des signes hématologiques, mais aussi des atteintes osseuses.
Et ensuite, quelle prise en charge recommandée pour ces jeunes patients qui sont touchés par un déficit en sphingomyélinase acide ?
Donc, la prise en charge, elle va être d'une part symptomatique. Pour les symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est effectivement la grosse rate qui va être parfois très gênante. On demande d'éviter tout ce qui est les sports de contact, donc par exemple la boxe ou les sports de combat où on pourrait avoir un traumatisme abdominal parce que bon, il y a de rares cas plutôt chez l'adulte de rupture de rate. Donc ça, on va être quand même vigilant sur le fait de protéger la rate. Et après, ça va être également les vaccinations. Donc bien sûr, toutes les vaccinations habituelles de l'enfant, mais on va veiller aussi à ce que les enfants soient vaccinés contre la grippe, le Covid également, puisque ce sont des enfants qui sont plus fragiles sur le plan respiratoire et pulmonaire. Et donc, on veille bien sûr à toutes ces vaccinations. On va également leur donner précocement des traitements antibiotiques quand ils ont une infection bronchique ou pulmonaire. Et puis, sur les prises en charge plus spécifiques, il existe maintenant depuis quelques mois une nouvelle enzymothérapie qui peut être mise en place chez certains patients, donc que ce soit des enfants ou des adultes, avec un certain nombre de critères de mise sous traitement Par exemple, si la splénomégalie est douloureuse, si l'enfant a une atteinte pulmonaire importante ou s'il a des complications hémorragiques ou s'il y a une cassure staturopondérale ou une atteinte hépatique sévère. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on va regarder. Et si l'enfant ou l'adulte a des critères de mise sous traitement, eh ben, on peut proposer cette enzymothérapie qui se fait à l'hôpital par voie intraveineuse tous les 15 jours avec une augmentation progressive des doses. Et c'est vrai que ce traitement, on a vu qu'il y avait eu des bons résultats. Donc, d'une part, qu'elle est bien tolérée et d'autre part, qu'il y avait une bonne efficacité sur la réduction du volume du foie et de la rate, une amélioration également au niveau respiratoire et une amélioration sur la croissance. Donc, c'est vrai que l'indication va être posée en fonction de la sévérité de la maladie chez les patients.
Et pour conclure, docteur Brassier, quel suivi leur proposer ?
Donc, le suivi va se faire cliniquement et puis sur des examens complémentaires. Donc, on va être très vigilant, bien sûr, en pédiatrie à la courbe de croissance staturopondérale. On va, bien sûr, mesurer la taille du foie et de la rate. Pour les formes, comme on a dit, intermédiaires avec éventuellement des signes neurologiques, on va évaluer régulièrement au niveau de l'examen neurologique. On peut faire également des bilans neuropsychologiques s'il y a des difficultés scolaires, éventuellement un retard cognitif. Et puis, pour le reste, il y aura des prises de sang et une imagerie qui seront faites en général tous les 6 mois environ. Donc, on va regarder avec la prise de sang la numération formule sanguine. On regarde si l'enfant a une baisse des plaquettes ou une baisse de l'hémoglobine. On va regarder le bilan hépatique pour voir s'il y a une atteinte hépatique. On regarde également le bilan lipidique. J'en avais pas parlé parce que il peut y avoir ce qu'on appelle un profil hétérogène. Ça veut dire le mauvais cholestérol qui est augmenté et qu'on va surveiller. Et puis, il y a aussi beaucoup de biomarqueurs qu'on surveille chez les patients qui sont des marqueurs pour le diagnostic, mais éventuellement aussi pour le suivi sous traitement. Ensuite, il y aura des examens d'imagerie, donc soit une échographie abdominale, soit une IRM abdominale que l'on fait en général tous les 6 mois à 1 an. On va voir le volume du foie et de la rate. On va regarder s'il y a des signes de fibrose éventuellement ou de cirrhose en général. Ça, c'est plus tardivement à l'âge adulte. On peut faire des fibroscanners pour évaluer effectivement s'il y a un degré de fibrose du foie. Et puis, il va y avoir également une évaluation pulmonaire, donc en général en lien avec un pneumopédiatre. On va mesurer bien sûr la saturation en oxygène de l'enfant, vérifier qu'il n'a pas de dyspnée. Et puis, quand l'enfant a en général à partir de 5-6 ans, on peut faire ce qu'on appelle des épreuves fonctionnelles respiratoires. On va mesurer un certain nombre de paramètres et en particulier ce qu'on appelle la DLCO, la diffusion libre du CO, qui nous donne une bonne indication sur l'atteinte pulmonaire dans la SMD. On fait également des scanners thoraciques une fois par an, pareil pour voir l'atteinte interstitielle. Et puis, il va y avoir l'ostéodensitométrie qu'on peut faire également à partir de l'âge de 5-6 ans, en moyenne tous les 3 à 5 ans, pour regarder la minéralisation osseuse, voir s'il y a une ostéopénie, voire une ostéoporose. Et après, dans le suivi, on va essayer d'évaluer aussi tout ce qui est les paramètres de qualité de vie. Donc, on a en général des questionnaires assez simples en pédiatrie qui s'appellent le PET-SQL, qui sont des questionnaires pour évaluer un petit peu la fatigabilité, le retentissement à l'école, est-ce qu'il y a des douleurs. Et puis, on leur fait également, en général, en lien avec les kinés ou le pneumopédiatre, des tests de marche de 6 minutes pour voir s'il y a une fatigabilité. Voilà, et donc ça, le suivi sera régulier en consultation ou en hôpital de jour, tous les 3 à 6 mois chez l'enfant petit. Et après, si l'enfant est très stable, on peut éventuellement le faire une fois par an.
Eh bien, merci mille fois, docteur Brassier, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en sphingomyélinase acide ou ASMD. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com. où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.